Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Comics Weekly, épisode numéro 33. Je suis toujours avec Mister
Tony Bonny.
Voilà, Mister puisque VO. Et c'est toujours Steve qui vous parle. Ça va changer.
Ouais, bien que quelquefois on doute, hein.
C'est
quand
la
ta voix change bizarrement, oui.
Ça arrive. Quand je pousse des cris bizarres. Comme
quand tu mets ta robe de chambre rose, hein. Précisons-le.
Ouais, exactement. Donc, comme d'habitude, double review, deux reviews solo chacun, et des news, et le numéro de la semaine par lequel on commence tout de suite. C'est donc Comics Weekly 33, donc un numéro 33 marquant. Pour ma part, j'ai choisi le Savage Dragon numéro 33. Donc, les crédits du numéro, c'est Eric Larsen.
Quelle surprise.
Quelle surprise. J'ai pas noté la date, tiens, étonnamment. J'ai oublié. C'est un numéro assez important puisque c'est là qu'apparaît, enfin c'est là que naît le bébé de Dragon.
Il va avoir un bébé parce qu'au fait, oui forcément puisqu'il y a, il y a deux enfants dans les récents que j'ai lus. Mais effectivement, comme on a lu que les premiers en français, tout ça on ne le sait pas encore. Voilà.
Voilà donc c'est le bébé de Rapture, qui est un des personnages de la série récurrente, mais que, bah, pour ceux qui n'auraient lu Dragon qu'en français, vous n'avez pas encore rencontré, je ne crois pas.
Non, du tout.
Bon, il se passe énormément de choses dans cet épisode, c'est vraiment un épisode assez turning point, puisque l'épisode d'après, c'était vraiment un nouvel arc, une nouvelle histoire, on partait vraiment sur d'autres choses. Mais à la fin de cet épisode, Dragon, donc à ce bébé, il s'entend pas avec Rapture, il la demande en mariage, Eric Larsen avait demandé aux fans, bah, si il voulait que Dragon se marie avec Rapture ou non. Les fans ont décidé que non. Donc, Rapture rejette sa proposition. Et le bébé est enlevé. Et donc, en tout cas pour eux, il meurt. Mais le bébé est enlevé par un groupe qui s'appelle le Covenant of the Sword. Et
ouais.
On entendra parler que bien des numéros après.
D'accord. Mais voilà, c'est plutôt pas mal ce système de demander aux lecteurs qu'est-ce qu'ils veulent voir arriver. Ça se fait que trop peu, je trouve. Il y a eu l'exemple de la Légion récemment. En tout cas, c'est quelque chose d'intéressant.
Bah, on avait eu la mort de Jason Todd.
Et surtout, bah, c'est le plus connu, peut-être.
C'est l'exemple le plus connu, mais c'est sûr.
Oui. Pour ma part, ce sera le Ultimate Spider-Man 33. Pourquoi celui-là plus qu'un autre? Eh bien, c'est du Spider-Man. Mais c'est l'arc Venom, et c'est à mon sens peut-être bien le meilleur arc, la meilleure histoire de Bendis, puisque c'est Bendis au scénario et Bagley au dessin. C'est peut-être la meilleure histoire de Bendis sur Ultimate Spider-Man, à mon sens.
Ah, donc, je crois que tu avais dit ça de la dernière fois où tu avais dit du Ultimate Spider-Man.
Alors, c'est l'une des meilleures. On va dire que les deux meilleures, c'est le retour du Bouffon Vert, donc de la dernière fois, et l'arc Venom. À mon sens, c'est vraiment comme ça qu'il aurait dû continuer la série, en reprenant d'anciennes histoires et en les transformant de la sorte. Après, il s'est vraiment trop écarté, à mon sens, de la série originale, et ça donnait quelque chose de beaucoup moins bien, quoi.
D'accord.
En tout cas, un épisode mémorable, un arc très bon, qui dure jusqu'au 38, je crois.
Que je n'ai pas lu.
Numéro 38 ou 39.
Que je n'ai pas lu, puisque Ultimate Spider-Man, j'avais vraiment lu les débuts. J'avais pas continué parce que l'univers Ultimate, me plaisait pas. Et puis, je les prends en poche. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui lit de la VF, mais honnêtement, à 3,90 les reprints. Voilà. Pour passer à côté, faut vraiment le vouloir. Donc, je l'ai dit, ceux qui sortent les Spider-Man poche, là. Et donc, on n'y est pas encore.
Et donc, tu as une très belle collection de crayons à papier.
Spider-Man poche.
De crayons à papier.
De crayons à papier qui me servent à prendre mes notes pour les podcasts.
C'est formidable. La boucle est bouclée. Voilà, on va passer aux news.
Exactement, les news.
Alors, on va commencer peut-être par Marvel, puisque, quand même, l'événement de la semaine, la news de la semaine. Joe Quesada a quitté son poste d'éditeur en chef et est remplacé au pied levé par Axel Alonso. Steve, peut-être réaction.
Oui, alors déjà, de très bon Buzz Bunny que tu as fait dessus. Je vous encourage à aller le lire sur le site.
Oui, voilà.
Franchement, super content. Ça fait des années que je dis virer Joe Quesada. Je veux appartenir au groupe Facebook Fire Joe Quesada, d'ailleurs. Super content parce que je trouve que en tant qu'éditeur en chef, alors il a apporté des bonnes choses, mais il en a apporté aussi beaucoup de mauvaises. Et ça fait 10 ans qu'il tient la barque. Il serait temps qu'il laisse un petit peu le champ libre à d'autres personnes. Malheureusement, il reste CCO, c'est-à-dire Chief Creative Officer, donc il aura toujours un droit de regard sur ce qui se passe, un peu comme Geoff Johns et le Chief Creative Officer chez DC. Donc, il y en a un qui a plus de talent que l'autre. À vous de deviner lequel. Donc il y en a un à qui j'ai confiance, l'autre non. Ce qui est bien, c'est qu'il va être pas mal occupé sur la branche Marvel Entertainment, donc tout ce qui est vidéo, dessin animé, film, voilà, tout ça. Donc, déjà, ça va lui prendre pas mal de temps, et c'est une bonne chose. Axel Alonso, je suis mitigé, il a édité de très bonnes choses, Preacher, voilà, enfin, Preacher, quoi.
Ouais.
Mais aussi, récemment, la franchise X-Men. Et
ouais,
là, c'est déjà moins bon.
Qui se porte, c'est peut-être la franchise, justement, la plus à la traîne, on va dire,
mais
ces derniers temps.
Mais il a édité Thor, qui était très bon.
Ouais.
Donc voilà, enfin, il a du bon, il a du moins bon. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'il est très pote avec Quesada. C'est Quesada qui l'a fait rentrer à Marvel. Et j'ai bien peur qu'Alonso soit un peu une marionnette. Et le petit pantin de Joe Quesada, et que ce soit quand même Jack Quesada qui tire les ficelles derrière. J'ai
un peu une stratégie à la Poutine, alors.
Un petit peu. Malgré tout, c'est vrai que alors, ça paraît soudain, mais finalement, quand on regarde les signes, on pouvait largement s'en douter qu'Alonso allait avoir cette place et que Quesada allait partir, notamment à cause de cette fameuse conférence de presse sur Fear Itself, quand ils ont annoncé le nouvel event. Quesada n'était pas là, et c'est Axel Alonso qui a tenu la conférence de presse, alors que c'est normalement le rôle de l'éditeur en chef. Donc, comme tu disais dans ton article, il y a ce changement de direction en mettant Fraction sur un événement pour Marvel. C'est vrai que Fraction est le lead scénariste de la branche X-Men, on va dire ça comme ça.
Donc, oui, pas plus pour longtemps. Attention, plus pour longtemps, parce que Gillen le remplace maintenant.
Bah, plus pour longtemps, oui, parce qu'il va écrire Fear Itself. Mais voilà, c'est le lead scénariste de la branche X-Men, la série qui se vend le plus, Uncanny. Donc, voilà, on sent qu'Alonso met son protégé, qu'il avait déjà commencé. Enfin, voilà, pour eux, c'était déjà une décision qui était prise. C'est juste que nous, on le savait pas encore.
Exactement,
ouais. Donc, Alonso met son petit protégé, comme Quesada avait mis son petit protégé, Bendis... dans la lumière, quoi, dans le spotlight.
Exactement, oui.
Voilà. Mmh. Et du coup, donc il y a Matt Fraction qui écrit Fear Itself, il y a le fait que Alonso présidait cette conférence de presse. Tout ça, c'était des signes assez annonciateurs. On aurait pu se rendre compte, mais
on n'a pas tellement réfléchi à ça, faut dire.
On n'a pas réfléchi, puis on n'a pas eu beaucoup le temps, parce que finalement, ça a été quand même assez vite. Ils ont annoncé ça entre les deux fêtes, entre Noël et le premier de l'an.
Oui, on était toujours en train de digérer, nous, la dernière.
Et puis des cuvées pour certains. Bon, pas moi. Moi, ça va, je me suis tenu à carreau. J'étais propre.
Très bien. Bah, ça change du reste de l'année.
Je vais avoir une réplique monstrueuse. Bref, enfin, voilà. Donc, je suis content. J'ai un peu peur, malgré tout. Tom Brevoort passe numéro 2, aussi. C'est important de le signaler.
Oui, Tom Brevoort, qui est très, très conservateur, hein, quand même. Bah, c'est normal. Comme je disais, c'est un vieux de la vieille.
C'est-à-dire que Quesada s'est écarté... Alonso a pris un grade puisqu'il était numéro 2, donc il est passé numéro 1, et Brevoort est passé numéro 2. Voilà. On verra bien, peut-être ce sera un renouveau chez Marvel, ou peut-être pas. Faut espérer pour le mieux, parce qu'ils en ont besoin, je trouve.
Il faut préciser que Brevoort, par exemple, soutenait bec et ongle Brand New Day dès le début, quoi. C'est-à-dire c'était vraiment quelque chose, un projet qui lui tenait à cœur.
Bah, Alonso aussi, hein. Alonso était embarqué dans Brand New Day. Hein, donc,
oui. Ouais.
On verra bien. En tout cas, il y a du changement chez Marvel, c'est une bonne chose. Reste à voir s'ils confirmeront que c'est une bonne chose ou non, mais en tout cas, ça bouge et c'est tout ce qu'on demande.
Voilà. Enfin,
en tout cas, moi, c'est tout ce que je demande. Que ce soit pas de l'immobilisme.
En tout cas, c'était la grosse news Marvel, la grosse news même de la semaine. On va passer au reste.
Ah, il y en a quand même une autre grosse, je trouve, qui concerne Marvel. Celle, je pense, à laquelle tu vas passer maintenant.
Ah, tu veux parler de Stan Lee?
Oui.
Oui, alors Stan Lee... à son étoile sur Hollywood Boulevard.
Ah, c'est la classe.
C'est quand même historique, puisque au fait, c'est le. Alors si je me trompe pas, hein, c'est peut-être bien le premier acteur de la bande dessinée, on va dire ça comme ça, qui a son étoile sur Hollywood Boulevard, parce que d'habitude c'est des acteurs dessinés.
Il est acteur de ciné puisqu'il passe dans tous les films Marvel.
Oui. Enfin ça c'est accessoire, on va dire. Mais c'est surtout l'impact qu'il a eu.
Je pense que c'est exactement ça, ouais.
Oui. Qui fait que il mérite amplement son étoile sur Hollywood Boulevard. Et alors il y a un nombre astronomique au fait de stars qui ont déjà leur étoile. Je pense pas qu'il y en avait autant en fait que ça.
Eh ben je ne sais pas combien il y en a, donc j'attends.
Il y en a je crois que c'était un chiffre comme 1300 et quelques.
Ah, putain quand même.
Oui, je crois que c'était vraiment important. Je l'ai pas sous les yeux non plus. Bah, celui qui a le chiffre exact aura un no prize, hein, un joli no prize comme City comme d'habitude. Voilà, donc bah oui, une news sympathique, c'est vraiment
bien,
le couronnement d'une carrière, quoi, quand
ouais,
même.
Papistan est toujours là, et puis en plus maintenant il est immortalisé sur Hollywood Boulevard, donc non, moi je trouve ça cool, quoi, je trouve ça cool pour cette année.
Non, mais pareil, idem. On va passer aux autres news quand même. Donc, toujours chez Marvel, on a eu un petit teaser Age of X à nouveau, sauf que là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu l'équipe des Avengers, mais version Age of X. Alors, est-ce qu'on aura une mini-série Avengers Age of X? Voilà,
un peu
c'est...
comme je disais peut-être, donc voilà, j'ai retrouvé le nom, c'était X Chronicles, hein, qui se passait dans l'univers, qui se passait dans Age of Apocalypse en fait, qui n'était pas centré sur les mutants, on avait Hulk, on avait tout ça. C'était une mini en deux, tu t'en rappelles peut-être. La dernière fois, je recherchais le titre et je me rappelle.
Eh bien non, j'avoue que non. J'avoue que non. Alors je sais pas si c'était ressorti en fait dans les bouquins R d'Apocalypse, si c'était ressorti ça chez Panini.
Je sais pas, en tout cas c'était publié dans un RCM à l'époque.
D'accord, là comme ça, ça ne me dit rien. En tout cas, peut-être que Age of X va donner lieu à en fait, un nouveau monde, à la Ultimate, enfin, tu vois. Peut-être qu'on va voir beaucoup d'émules de ça.
À l'Ultimate ou à la House of M, comme on a souvent des mini-séries qui se passent sur le monde House of M, même après ce fameux event.
Ouais. Bon, on verra, avec plus ou moins d'intérêt.
On a eu aussi des bios qui sont sortis, vous pouvez les retrouver sur le site de Cap Chronicles.
Ah, tout à fait, oui. Les bios des personnages, donc des personnages principaux de Age of X.
C'est sympathique, c'est un nouveau type de teaser, on a des bios qui sont publiés sur le net avant le crossover. Pas mal comme idée, je trouve.
Bah, j'espère que les pages seront quand même reprintées dans les comics, enfin mis dans les comics.
Malgré tout, ça manque, hein, la grande époque des Strike Files des années 90, où tu avais des bouquins où c'était que des fiches de personnages.
Ils en font toujours, ils font les Marvel Encyclopédies.
Ouais, tu sais, il y avait des numéros, c'était vraiment, enfin, c'était pas forcément l'encyclopédie Marvel. Je me rappelle par exemple d'un Strike Files, ce genre de choses, quoi.
Où bon, il y avait qui était Moira, qui était.
Exactement. T'en avais un aussi avec le Green Goblin aussi dans les années 90.
Ouais, dans la saga du clone, ouais, tout à fait.
Ouais. Enfin, c'était drôle, quoi. C'est des produits. C'était l'époque de la surconsommation comics qui a coulé un petit peu la branche. Hein,
je l'ai, hein, le Factor X en français avec les Strike Files, je crois. Ouais. Donc voilà. C'est l'un des premiers d'ailleurs que j'avais acheté à l'époque. Bref, on va arrêter sur la nostalgie, on va passer à DC. Alors DC, il y a eu deux campagnes de pub qui ont été lancées cette semaine. Une première sur la baisse des prix, c'est-à-dire qu'on nous annonce des prix qui n'excéderont pas 2,99$ chez DC.
Bah ça avait été déjà annoncé depuis longtemps, hein. Là ils en remettent un coup. Mais tu sais, ils baissent le nombre à 20 pages et par contre, en contrepartie, tous les comics sont à 2,99$. Et exit les backups aussi.
Non mais là on a bien la confirmation que absolument tous les comics seront à 2,90$, y compris les titres Vertigo, hein, précisons-le aussi.
Ah ça par contre je ne savais pas.
Eh oui, Vertigo aussi est mis dans le moule. Donc Fable, et les autres. Parce que là, il faut faire vite. Ah,
Hellblazer, House of Mystery, iZombie, j'en passe. Sweet Tooth, par exemple.
Voilà.
American Vampire. Je vais t'en sortir plein, je m'arrête.
Voilà. Autre campagne de pub qui aussi a fait son petit effet pour moi, je trouve ça sympa. Le courrier des lecteurs revient chez DC.
Oh putain, c'est bon ça.
Et oui, le courrier des lecteurs revient chez DC. Alors, on n'envoie pas des messages de plus de 500 mots. Enfin, il y a plusieurs petites règles à respecter comme ça. 500 mots, finalement, ça fait pas énorme, hein, je me dis.
Ouais, ils sont stricts, hein.
Oui. Donc il y a plusieurs petites règles comme ça à respecter. Pouvez, je pense, même de France envoyer du courrier, je ne sais pas.
Interdiction d'insulter JMS.
Ah oui, bah bien sûr. Ah bah bien sûr. Alors tous les courriers justement qui ne sont pas publiés normalement sont retournés à l'expéditeur, soi-disant.
Bah vous pouvez sûrement écrire par mail et n'oubliez pas, comme souvent
oui,
il le précise,
j'imagine
chez Marvel et j'imagine que chez DC ça doit être la même chose, n'oubliez pas de marquer OK to print à la fin de votre message, sinon ils n'auront pas le droit de publier. Ce serait con d'envoyer un mail pensant être publié sans avoir marqué ça.
Ouais. Enfin, de toute façon, tous les renseignements, je mettrai le petit lien pour avoir les petits renseignements.
Je vais juste rajouter une petite parenthèse. Pour le mois de janvier, DC fait que des covers spéciales, des covers iconiques, comme ils appellent ça, où on voit tout sur un fond blanc, le personnage du numéro. Et je trouve ces covers particulièrement jolis.
D'accord, bah c'est très bien, Steve.
On
va en parler, oui, d'ailleurs.
On en a deux, là.
On en a pris deux. Donc, on va en parler tout à l'heure.
Voilà. Et toutes les covers, franchement, ça donne un super effet, je trouve, tous les comics basés sur le... Enfin, toutes les covers de comics basées sur le même modèle ce mois-ci, ce mois de janvier, pour annoncer cette nouvelle baisse de prix, etc. Je trouve ça joli, quoi. C'est un petit effet, un petit charme.
Niveau news comics pur et dur, nous aurons bientôt une nouvelle série Green Lantern, une quatrième. Alors attention, ça fait beaucoup.
Pas vraiment une série Green Lantern.
Oui, c'est Red Lantern Corps.
Voilà.
Donc, enfin non, c'est Red Lantern d'ailleurs, je crois que ça s'appelle tout simplement. Sur le Green Lantern Corps. Et ce sera écrit par Peter Milligan, alors un vieux de la vieille aussi, hein, ouais. Peter Milligan.
Et puis torturé surtout. Avec des choses qui fait des choses torturées et vraiment oui. En dehors du mainstream classique.
Oui, enfin il a fait quand même du pas mal de Batman dans les années 80.
Ouais, bah on se rappelle principalement de son run X-Force X-Statics quand même.
Bon, aussi,
pour du mainstream est quand même totalement à contre-courant.
Ah totalement, oui. Fallait aimer le style graphique aussi.
C'était Michael Red, ouais.
Michael Red, ouais. Faut aimer
que
Michael
vous retrouvez sur iZombie, par exemple.
Qu'on retrouve sur iZombie, effectivement, puisque tu l'as cité juste avant. Chez
c'est pour ça que j'y pense.
Mais oui, exactement. Bon bah, on va passer. Bah,
moi, je sais pas. Moi, j'attends de voir ça parce que bah déjà Peter Milligan, ce sera un ton différent. En plus, c'est quand même la première série basée dans l'univers Green Lantern qui n'est pas sur des Green Lantern. Donc, on va avoir un autre point de vue. Ça peut être intéressant, comme ça peut être, comme tu dis, la goutte de trop. Quatrième série dans le monde de Green Lantern. Après tout, on gueule pas sur cinq séries Batman régulières, donc.
Oh, il y en a une dizaine au fait, hein, dans la franchise, on va dire.
Donc, ouais, enfin non, Batman pur. Batman pur. Ouais, si ouais, on compte avec toutes les franchises, effectivement, il y en a une dizaine. Donc, alors, on va pas bientôt s'arrêter d'ailleurs.
On va. Excellente transition, puisque précisons aussi que dans Batman The Dark Knight, David Finch va amener le personnage d'Etrigan, le fameux démon dont on a parlé il y a peu de temps. Donc il sera dans Batman The Dark Knight prochainement. Et on voit là par là que il est vraiment influencé par le Batman des années 70-80, puisque Etrigan avait fait des apparitions aussi dans Batman à l'époque.
Ouais, il avait son propre backup.
Je crois que c'était les épisodes de Doug Munch Doug Munch qui avait écrit.
Il fait des apparitions, mais je crois même qu'il avait eu des backups dans Détective, je crois, pendant un moment. Il y avait une série de backups sur Demon. C'était peut-être pas dans Batman. C'était peut-être dans une autre série. Mais
en tout cas, il est apparu. Il est apparu dans Batman.
Assez souvent, effectivement.
Ouais. Ensuite, Action Comics 900. Alors, ça marquera la fin de la quête de Lex Luthor. C'est-à-dire que Lex Luthor va relaisser la place à Superman, en tout cas semble-t-il. Superman est de retour dans les pages d'Action Comics à partir du 900. Et le numéro fera une cinquantaine de pages avec bon nombre d'artistes, on n'a pas toute la liste là.
Et celui-ci ne sera pas à 2,99, j'imagine.
Alors là, c'est une question à laquelle je n'ai pas...
Non, mais non,
parce
que de toute façon c'est un double numéro, donc ce serait quand même totalement con de faire un numéro... Enfin, je veux dire, c'est pas justifiable de faire un numéro double et de le laisser à 2,99, c'est ridicule.
Oui. Non, mais alors là, c'est une question, je ne sais pas.
Non, je pense que c'est 2,99 pour tous les singles classiques de 20 pages, maintenant, chez DC.
Alors, dernière petite news DC, Reign of Doomsday continue dans Superman Batman Annual numéro 5, par James Robinson et Miguel Sepulveda. Et également, ensuite, dans Superboy numéro 6, par Jeff Lemire et Pierre Gallo. On en reparlera d'ici là.
Miguel Sepulveda, chez DC. Ah, d'accord.
Oui.
Puisqu'il travaille principalement chez Marvel.
D'ailleurs, c'est étonnant, oui, c'est étonnant. Des gens s'étonnent de ça aussi, mais...
J'ai hâte de le voir ce qu'il peut donner sur des personnages DC, parce que chez Marvel, il s'en sort plutôt bien, j'aime bien centrer, donc j'ai hâte de le voir sur des personnages DC.
Reign of Doomsday continuera dans une dernière partie qui reste à annoncer. Et à propos de Reign of Doomsday, on a un petit rectificatif quand même important.
Oui, on en parlera tout à l'heure parce qu'il y a la review de Steam.
D'accord, bon, alors parlons-en tout à l'heure. Dernière chose qui clôturera ces news, du Topco. Un teaser Topco qui dit « We are all lost ». C'est tout.
D'accord.
Avril 2011, à voir de quoi il s'agit. Peut-être une nouvelle série Topco. We are all lost, un rapport
peut-être
avec
un event, peut-être un event chez Topco.
Peut-être.
C'est une maison que je ne suis pas du tout, en fait. Je veux dire, il peut s'y passer n'importe quoi, je ne suis absolument pas au courant. Ça m'intéresse pas plus que ça, pourtant c'est peut-être très bien, enfin, on a quand même des gros auteurs comme Ron Martz là-bas, Stefan Sejic aussi, mais pourtant, enfin, je veux dire, voilà, je n'en lis pas du tout, donc je ne sais pas ce que ça vaut.
Holy cow. Bon, allez, on y va.
Et puis on a Romano Molinar sur Darkness.
Romano Molinar. Exactement.
J'ai juste une petite dernière news à rajouter pour faire une petite boucle avec le débat sur le digital qu'on a eu il y a pas si longtemps que ça, hein,
oui.
Que vous avez pu écouter peut-être, mm-hmm. Et que je vous encourage à écouter si vous ne l'avez pas encore fait. On parlait de la baisse des prix, etc. DC a annoncé un jour qui s'appelait le Batman 101. Alors c'est une jolie petite blague, puisqu'il y a 101 épisodes de Batman qui étaient concernés. Et puis 101, c'est aussi une expression pour dire c'est un cours pour les débutants. Donc en fait, c'était tous les épisodes de Batman numéro 600 à Batman numéro 700, ce jour-là était à 99 centimes. Enfin 99 cents.
D'accord, digital. Donc là tu viens de me pourrir ma journée au fait. Tu viens de me dire que j'ai raté une occasion pareille.
Ouais. Eh ben oui, non, c'est vrai que moi aussi je l'ai appris trop tard. Mais c'est vrai que l'initiative était intéressante. Apparemment, ils avaient déjà fait ça, ils avaient fait un Blackest Friday, où justement tous les épisodes de Blackest Night Digital étaient à 99 cents ce jour-là, et donc c'était uniquement ce jour-là. Le jour qu'ils ont choisi, en revanche, porte un petit peu à confusion, c'était le 1er janvier. Alors, franchement, c'est une très très bonne initiative de faire ça. Sur une journée, c'est vrai que c'est court, mais en même temps, on comprend. C'est une offre d'appel, il faut pas qu'ils en vendent trop non plus, parce que sinon ils vont perdre de l'argent, enfin, en tout cas, ouais. C'est ce qu'ils pensent. Mais le 1er janvier, c'est un petit peu, pour moi, se foutre de la gueule du monde. Les gens ont un petit peu autre chose à foutre le 1er janvier qu'aller télécharger des comics digitaux. Les gens ont autre chose à penser que comics. Enfin, je veux dire, c'est avec tes amis, ta famille, tu leur souhaites bonne année, tu te décuves de la veille quand tu t'es pris une bonne biture, enfin voilà, tu vas pas forcément... Moi, je l'ai appris le 2. Bon, j'étais pas bituré ou quoi que ce soit, mais voilà, enfin, je le savais pas, j'ai appris ça que le 2, quoi. C'est vraiment dommage. C'est dommage, c'est une très bonne initiative, mais le choix du jour, c'est un petit peu le foutage de gueule, je trouve. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi, Benny, mais...
Oui, on a un petit peu autre chose à faire, quand même, un 1er janvier, que de penser à ça, quoi. Surtout que c'est un peu dommage, au fait, de louper ça, parce que, justement, ça tombe un jour comme celui-là.
En tout cas, c'est un joli coup de pub. Les 100 numéros sont toujours disponibles, hein, bien évidemment, sur Comixology. Ils sont repassés au prix $1.99, malheureusement. Mais voilà quoi, pour $100, exactement, on pouvait avoir 101 épisodes de Batman ce jour-là, c'était plutôt pas mal.
Ouais.
Après, on va pas revenir sur le digital, etc. Enfin,
non, oui, bien sûr.
Réécouter le débat si vous ne l'avez pas écouté.
Il est très marrant. Voilà, très marrant. Très intéressant, mais marrant.
Très bonne initiative de la part de DC. Dommage que ce soit si court et que ce soit tombé ce jour-là. Bon, on en a fini avec cette énorme plage de news de 20 minutes.
Tu voulais faire court. On pensait faire vite et puis finalement, oui, voilà. Comme d'habitude.
Mais finalement, il y avait beaucoup de choses à dire et puis bon, c'est aussi l'intérêt de tout ça, quoi.
Les aléas du direct, puisque
parler comics. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez vous aussi de toutes ces news dont on parle. Donnez-nous vos réactions à cette nouvelle série Green Lantern, à l'étoile de Sam Lee, au départ de Joe Quesada, à tout ça. C'est 100 un comics.
Steve, parce que c'est vrai, hein. Steve a bien un peignoir rose.
Allez, on passe à la double review. Et là, ça va faire plaisir à l'un de nos auditeurs. Ultimate Captain America. Numéro 1 sur 6, si je ne me trompe pas, c'est mini en 6.
Est-ce la première fois que nous faisons du Ultimate en double review?
En double review? Je sais plus.
Eh bien moi non plus, mais c'est pas grave.
Je ne sais plus.
Peut-être. En tout cas, c'est une bonne nouvelle.
C'est pas la première fois qu'on en fait en review, mais en double review, je sais plus.
Bon.
Ah, je me demande si... Ah non, c'était dans un Comic City qu'on avait fait du Ultimate Avengers. Autant pour moi. Donc oui, je crois que c'est la première fois.
Bon.
Au scénario, on retrouve Jason Aaron, au dessin et à l'ancrage, Ron Garney, donc une équipe relativement solide, hein, quand même.
Et oui, enfin connu des fans et qui fonctionne plutôt bien ensemble.
Et je dois avouer que le début m'a profondément saoulé, puisque c'est encore et encore et encore une fois cette technique du « je te montre ce qui se passe et ensuite je reviens en arrière ».
Eh bien, j'en aurai encore un comme ça tout à l'heure. Dont je vais parler, c'est extraordinaire.
Ah, mais c'est chiant, quoi.
Pratiquement deux.
C'est surusé, quoi. Je trouve que c'est surusé. Bon, néanmoins, je dois avouer que j'ai passé un bon moment avec cet épisode. C'est plutôt sympa. Donc, on a Captain America qui se fait défoncer par un ennemi... Ouais, voilà, on ne sait pas qui c'est. On apprend son identité à la toute fin de l'épisode. C'est bien vu, je trouve.
Oui.
Moi, j'ai trouvé ça bien vu.
Oui, en fait, on peut le dire comme ça, c'est la version Ultimate d'un personnage qu'on n'a pas encore vu dans l'univers Ultimate jusque-là.
Ah, alors je ne sais pas si on l'avait vu ou pas vu ou non, puisque moi je ne suis pas l'univers Ultimate.
Je crois pas, honnêtement je ne crois pas, je pense que justement l'idée c'est de pouvoir le caser là maintenant. Quoi.
Et je trouve en plus que ce méchant écrit par Jason Aaron s'en sort plutôt pas mal, en plus c'est un méchant qui correspond très bien à Jason Aaron, un mec complètement taré qui l'aide bien. Donc voilà, enfin, c'est dans le bon ton. L'épisode se lit relativement vite quand même. Bon, c'est ouais. Ultimate. C'est assez décompressé. C'est aussi ce que je reproche à l'univers Ultimate en général. C'est vraiment très décompressé.
C'est de l'action à outrance. Franchement, c'est de l'action à outrance. En fait, mais... l'épisode en lui-même est une énorme scène d'action.
Mais c'est bien écrit. Donc déjà, c'est déjà un bon point. Comme je disais, Captain America se fait défoncer, un flingue sur la tempe, puis on revient 6 semaines en arrière, je crois. Et là, on apprend ce qui se passe, c'est-à-dire que ce personnage mystère est en train de faire des expériences avec le super sérum, enfin le sérum du super soldat, et travaille avec les Nord-Coréens. Captain America débarque avec des gens du MI5, je crois, enfin en tout cas c'est des gens anglais, ou du SAS peut-être.
Enfin, chapeauté, cela dit, Captain America par Carol Danvers, du SHIELD.
Et donc, il essaie de mettre un terme à tout ça, voilà, et puis il s'ensuit une grosse, grosse baston. Mais ça reste sympa, moi je trouve ça vraiment sympathique.
Oui, c'est sympathique. Alors, faut quand même préciser que le Captain America, la version Ultimate de Captain America est quand même bien plus hardcore que sa version classique. Mmh. Et donc il y a le langage fleuri, on va dire, un petit peu comme le Punisher.
Ouais, mais moi je sais pas, ça m'a pas trop choqué en fait. Tu vois, je l'ai pas trop ressenti. En même temps, comme c'était du Jason Aaron, peut-être que je m'étais préparé mentalement sans me rendre compte.
Psychologiquement, oui.
Mais non, je sais pas. J'ai plutôt pas mal accroché et je pense que je vais continuer de lire la mini.
Ah ouais, moi ça m'a intrigué quand même, ce cliffhanger et l'identité de ce personnage mystère. L'univers Ultimate est quand même encore capable de produire des trucs intéressants de temps à autre.
Donc bon voilà, une bonne petite mini. Donc c'est bien en 6, hein, rassure-moi, je crois. Alors,
écoute, est-ce que c'est marqué sur la couverture? Parce que non, ils ont pas
non,
mis.
Non, c'est pas marqué. J'avais vu ça dans les sollicitations, je crois.
Ah oui, bah alors là, je ne sais pas du coup. Parce que s'ils le mettent pas, c'est bête parce qu'ils devraient le mettre comme ils faisaient avant, d'ailleurs, dans les années 90, numérotant sur
alors,
temps.
Pour moi, bah ils le font toujours, hein. Mais chez Marvel, ils le font toujours. Peut-être pas dans l'univers Ultimate, mais pour moi, je pense que c'est peut-être l'histoire de se laisser une porte de sortie. Si jamais ça marche vraiment bien, peut-être d'en faire une régulière.
Ou bien alors, justement, si jamais ça marche pas, d'écourter peut-être.
Peut-être aussi, mais je pense que ça marchera. Je pense que ça marchera avec des gens comme Jason Aaron et Ron Gurney.
Ouais.
Il va pas y avoir trop de soucis.
Ouais, y a
le truc
gens.
Est solide. Bon, pour moi, c'est un bon check-it.
Bah, il était attendu de toute façon en plus, hein, précisons-le.
Je ne sais pas du tout ça par contre.
Oh, bah, par rapport au site qu'on check, les gens avaient l'air de l'attendre, ce numéro.
Ah oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, après, je sais pas trop l'attente des gens, j'ai pas été voir. Ouais. Puis j'ai pas été voir ce que les gens en pensaient non plus. Mais enfin, je sais pas. Pour moi, c'est un bon check-it.
Oui, bah moi aussi un check-it, j'irais peut-être pas jusqu'à dire que c'est un bail, parce que c'est un bail pour qui suit l'univers Ultimate régulièrement, mais par contre pour les autres ce sera juste un check-it, c'est une bonne histoire sans être indispensable.
Et je pense que quand on compare à par exemple ce qui est sorti aussi cette semaine, Captain America et la Hydra, c'est autrement meilleur. Voilà.
Alors ça je ne sais pas par contre, je l'ai
bon,
absolument.
Bien sûr, c'est pas dans l'univers 616, mais c'est meilleur que la Hydra.
D'accord.
Bref, on passe au review solo, et je commence avec Steel, volume 2, numéro 1. Et donc, le petit rectificatif qu'on voulait faire, c'est tout simplement qu'on avait annoncé Steel comme étant une série régulière, et il s'avère en fait que c'est un one-shot. Alors, si vous ne l'avez pas encore lu, mettez-vous bien en tête que c'est un one-shot, et vous faites pas pourrir l'histoire à cause de ça, parce que moi, dans ma tête, c'était une série régulière, et je ne comprenais pas trop comment ça allait pouvoir continuer.
Mais alors, oui, justement, mais un autre corps défendant, ça s'appelle quand même Steel, volume 2, numéro 1, donc ça
numéro
porte
1.
Vraiment à confusion.
Exactement. Et là, c'est vrai que ce que fait Marvel de mettre one-shot sur la couverture, c'est quand même très pratique.
Ah oui, là c'est pratiquement du, comment dire, du... Bah, c'est de la publicité mensongère, c'est pratiquement, voilà le premier numéro de telle série, et au fait, il n'y en aura pas d'autres. Et on s'en rend compte qu'à la fin, pour ceux qui ne le savent pas, et qui le voient sur les étalages.
Ah bah c'est même pas marqué à la fin, que enfin c'est marqué à suivre dans Outsiders 37, puisque c'est Reign of Doomsday, mais je t'en reviens tout de suite. Et mais voilà, c'est tout, et on voit pas à suivre le mois prochain, mais c'est pas toujours marqué quand c'est un crossover à suivre le mois prochain.
Ouais.
Donc bon.
Donc voilà, ça s'arrête bel et bien, tu en es sûr.
Ah bah oui, de toute façon oui, c'est un one-shot, c'est prévu pour être un one-shot, et puis je vois pas comment ça pourrait continuer. Bah justement, moi je m'étais imaginé comment ça pouvait continuer. Et je voulais savoir, et j'étais voir les sollicitations, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas ni en février, ni en mars. C'est là que j'ai commencé à pleurer. Bref, tout ça pour dire que c'est écrit par Steve Lyons, alors que je ne connaissais absolument pas, et qui est en fait un romancier, notamment, il écrit des bouquins sur Doctor Who. Enfin, des romans qui se passent dans l'univers de Doctor Who, pas sur l'historique de la série.
Oui.
Je sais pas si je suis très clair.
Non, mais je pense que Peter David aussi en écrit, par exemple, non?
Il écrit beaucoup sur Star Trek. Il a écrit énormément de romans sur Star Trek.
D'accord.
Notamment de très très bons et très très classiques aujourd'hui.
Donc il écrit des romans, à côté de son activité de scénariste de comics, parfois.
Et au dessin et à l'ancrage, on retrouve Ed Benes. Donc voilà, niveau dessin, c'est plutôt pas mal.
C'est pas un béné.
Ouh, oula, pas mal.
Donc, nul.
Oui, pas mal dans la nullité, bien sûr.
Oui, bien sûr. Vas-y, continue, enchaîne.
C'est notre échelle Comic City, elle est inversée. Plus c'est mauvais, plus c'est bon.
Oui, voilà. D'accord.
Donc, eh bien, si vous vous rappelez de quand on a parlé de cette annonce, de ce retour de style, j'avais dit que, bon, c'est la première partie de Reign of Doomsday. Donc, le retour de Doomsday, il va tout casser, etc. Et il arrive dans les pages de style. On s'est dit, mais style, comment il va pouvoir résister à Doomsday? Il va se faire casser en deux.
Mais Doomsday, il était revenu, par exemple, au début de New Krypton, il s'était fait exploser en trois pages, et là, c'est toujours le même
parce
Doomsday.
Parce que il y avait plein de Kryptoniens.
Oui.
Et là, Steel est quand même quelqu'un sans pouvoir, à part son armure et son marteau.
Et Superman se contente de marcher, c'est ça.
Ouais, Superman n'apparaît pas dans les pages, hein. Cherchez pas, il est pas là.
Oui, il marche.
Bon, il doit marcher, quelque part dans l'Arkansas, peut-être, je ne sais où.
Toi, tu fais du vélo aussi, franchement. Il est un peu bizarre en ce moment, Superman.
Et donc, cet épisode est vraiment pas mal écrit. Je vais spoiler, mais en même temps, c'est quelque chose auquel tout le monde s'attend, quoi. Steel ne s'en sort pas. Enfin, face à Doomsday, il peut pas s'en sortir. Il est obligé de se prendre une branlée, et puis c'est une bonne branlée, et il y reste, quoi.
Et voilà, tu le dis avec des trémolos dans la voix.
Mais, c'est honnêtement.
J'allais dire, c'est la fin de Steel, la fin de Steel.
L'épisode est très très bien écrit. Il y a vraiment de l'émotion dans l'épisode. La boucle est bouclée, puisque pour ceux qui se rappelleraient de la mort de Superman, on voyait le personnage d'Irons, donc le personnage de Steel, qui se retrouvait écrasé sous des gravats.
Oui.
Et c'est en se réveillant, il avait déjà été sauvé par Superman avant, et en se réveillant et en apprenant, enfin à l'hôpital et en apprenant que Superman est mort, il décide d'utiliser cette armure qu'il s'est construite pour remplacer Superman. Enfin, remplacer, en tout cas, honorer sa mémoire.
Oui,
et continuer le combat que Superman
a entamé
pour la liberté, la justice, tout ça.
And the American way.
Ouais.
And the American way.
Et donc, c'est un monologue de style, un monologue intérieur qui revient sans cesse sur toute son histoire, enfin sur toute son histoire, en tout cas ses débuts. Il sait pertinemment d'entrée de jeu qu'il va y rester. Dès les premières pages, il nous le dit, enfin même dès la première bulle, il sait très bien qu'il va y rester. Il tente des stratégies, on a un Doomsday qui a d'ailleurs énormément évolué, qui évolue d'ailleurs à une vitesse grand V tout au long de l'épisode.
Ah, c'est ce que je voulais te demander au fait, il est updaté quand même, Doomsday. Alors.
Ah c'est un Doomsday qui n'a plus rien à voir avec le Doomsday qui s'est battu contre Superman au départ, quoi. Je veux dire, il est capable d'évoluer à la vitesse grand V. C'est-à-dire que quand il se bat face à Steel, il a une armure qui commence à lui sortir de la peau. Et à la fin de son combat, l'armure re-rentre. Et Doomsday commence à parler.
Ah oui, ça c'est original, parce qu'effectivement jusque-là, à part grogner, il faisait pas grand-chose.
À savoir aussi que Doomsday vole maintenant. Donc Doomsday a vraiment, vraiment évolué. Et donc on a toute cette baston de Steel qui essaye de retenir Doomsday autant que possible le temps que quelqu'un arrive en renfort, quelqu'un comme Superman par exemple, et qui sait que qu'il a pas beaucoup de temps, quoi. Mais il essaye de faire tout ce qu'il peut pour le retenir, pour sauver les civils. Et puis on a sa nièce qu'on avait pu croiser dans 52 à l'époque, et puis dans la série Infinity NC qui n'a duré qu'un an, hein, 12 numéros, qui essaye de l'en empêcher d'aller face à Doomsday, quoi, parce qu'elle sait qu'il va au casse-pipe. Donc voilà, tout l'épisode est vraiment bien écrit. C'est vraiment très sympathique, un bon one-shot. C'est 2,99$, donnez-lui sa chance. C'est la fin d'un personnage qui aura quand même marqué pas mal les années 90. Notamment aussi grâce à un superbe film resté dans la mémoire collective, style avec Shaquille O'Neal. Voilà. Non mais voilà, bon, c'est un personnage qui s'en va, quoi. Qui, bon, Doomsday est intriguant. Donc pour moi, c'est au moins un check-it, sinon un bail.
Ouais,
c'est un check-it, quoi.
Faut voir après ce que va donner la mini-série dans son ensemble. Est-ce que ce retour de Doomsday va vraiment changer des choses? Enfin là, déjà oui, ça.
Mais actuellement, le problème c'est qu'il n'est pas crédité dans les pages de Superman tout court. Donc je pense que cette fameuse dernière partie mystère qui n'a pas encore été annoncée, ce sera dans les pages d'une série Superman. Puisque il va passer dans la suite, c'est dans Outsiders, comme tu as annoncé ensuite, la suite ce sera dans Superman Batman.
c'est tout trouvé pour relancer Superman après JMS, puisque JMS s'en va. C'est-à-dire que Superman va se dire, oh mince, pendant que Doomsday était en train de tuer tout le monde, j'étais en train de marcher comme un con, vite, il faut que je reprenne du service, point barre.
Je pense qu'on va se diriger sur quelque chose comme ça.
Ce qui est un peu ridicule quand même.
Un peu. Mais bon, au moins, Superman arrêtera de marcher et va peut-être commencer à mettre des patates, quoi.
Ça pourra devenir une réplique entre geeks. T'étais où? Bah, j'étais en train de marcher.
Oui, je pense. Voilà, je te laisse la parole pour ta première review.
Mais transition, je vais commencer par Superboy, peut-être.
Oui, bon,
pour rester dans le DC.
Fais comme il te semble.
Je ne sais pas, je ne sais pas ce que tu vas faire après, donc surprise. Ah. Voilà. Superboy, donc au crédit, Jeff Lemire au scénario, Pierre Gallo au dessin.
C'est donc un bail, voilà.
Au revoir. C'est toujours très bon, pour moi c'est vraiment le Invincible de chez DC, je le dis souvent, mais c'est vraiment ça. Alors par contre, on commence, comme tu le disais tout à l'heure, par Superboy en mauvaise posture dans son école. Mm-hmm. En fait, tout le monde est par terre. Lui, il a mal à la tête, il est avec son t-shirt de Superboy, donc devant, en fait, la nièce, la cousine, c'est la nièce ou la cousine de Lex Luthor? La nièce de Lex Luthor, et donc voilà.
Oui, c'est sa nièce, puisque c'est la fille de sa sœur.
Voilà. C'est ça. Donc ça commence très très fort, cette première page, et ensuite, on tourne, et flashback. On reprend là où on avait laissé un petit peu les choses dans le dernier numéro, c'est-à-dire que Poison Ivy est passé par là, les champs des agriculteurs sont totalement ruinés parce qu'il y a des racines partout qui ont envahi Smallville. Et on assiste à quelques petites scènes marrantes. Par exemple, il y a Simon qui a une discussion avec Connor, et il y a surtout au fait Connor qui rencontre Bart. Bartalon.
Simpson. Ah, pardon.
Oui.
Je suis désolé.
J'aurais pu la faire.
Je suis fatigué, je suis désolé.
Qui rencontre Bart et il lui propose, au fait, pour récolter des fonds, pour aider les agriculteurs, les paysans de Smallville, de faire une course.
Ah, mais mythique.
Voilà. De faire une course ensemble pour récolter des fonds. Donc la première course Superboy qui flash.
Ouais.
Voilà.
Ah, c'est excellent ça.
Donc c'est en projet, mais en fait, l'épisode est entrecoupé de scènes flashback, et à chaque fois on revient sur la scène présente avec l'attaque dans l'école, enfin dans le lycée plutôt, devrais-je dire. Bien même, est-ce l'université? Non, c'est le lycée.
Non, c'est le lycée. Hein.
C'est le lycée, ouais, avec les casiers.
Je crois pas qu'il y ait d'université à Smallville. Donc,
Oui, de toute façon, sinon il sera Métropolis. Donc on retourne à chaque fois sur cette scène par intermittence. Donc c'est vrai que c'est un procédé assez chiant, puisque tellement répété en ce moment dans les comics.
Alors, au moins, déjà, on y retourne. On n'attend pas de retourner, enfin de dérouler toute la scène jusqu'à retourner à ce point-là.
Oui.
Il y a une alternance entre les deux, entre le présent et le flashback d'il y a quelques jours, quelques heures, ça dépend quoi.
Ouais. Mais ça n'apporte rien finalement, puisque le fait que le flashback qu'on voit n'apporte rien par rapport au moment qu'on voit présent, en fait. C'est juste...
Pour le moment, peut-être.
C'est juste d'être, d'imposer du rythme, je pense, mais bon, ça n'apporte pas grand-chose, en fait. Toujours est-il que, en fait, cette espèce de perturbation, alors déjà, pourquoi Laurie Luthor, puisque c'est son nom, hein, me semble-t-il, ouais, n'est pas affectée, ça c'est mystérieux. Le gros truc, c'est qu'elle voit que Connor est au fait Superboy, tous les autres élèves sont affectés par l'arrivée d'un personnage mystère qui visiblement vient d'une autre dimension. Et je vais pas en dire plus, ce serait dommage de spoiler les choses. Mais voilà, donc c'est un numéro super fun, ça va à 100 à l'heure, il se passe énormément de choses. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup de choses marrantes. J'attends avec impatience de voir la suite, qu'est-ce que pourrait donner ce team-up entre Superboy et Laurie Luthor, puisqu'elle se retrouve embarquée un petit peu malgré elle dans cette histoire. Qui est ce personnage venu d'une autre dimension? Pourquoi est-il là? Et j'attends aussi avec impatience la course entre Kid Flash et Superboy. Bref, il y a plein de choses.
Moi j'adore l'idée. J'adore l'idée.
22 pages de fun.
20, donc pour... 20 pages.
20 pages. Ah oui, c'est vrai, je ne sais pas compter, mais maintenant je crois que c'est 20. Effectivement, 20 pages de fun, mais de toute façon, c'est tellement bon que même s'il y a 2 pages de moins, c'est toujours excellent. Il y a une petite preview, il est bon de le signaler, de DC Universe Online numéro 1, Legends.
Qui était dans ce style aussi, et je ne l'ai pas lu, je n'ai pas eu le temps de la lire, donc je ne sais pas ce que ça vaut.
Non, moi non plus, je l'ai pas lu. Mais en tout cas, elle y est aussi là-dedans.
On retrouve au dessin Howard Porter et au scénario Marv Wolfman, entre autres, puisqu'ils sont plusieurs.
Et ça a l'air plutôt pas mal d'ailleurs.
C'est prévu pour être une série hebdo en 26 épisodes.
Quand même, hein, c'est quand même un gros projet. Donc voilà, en tout cas, Superboy a un buy, un must buy, comme d'habitude, et je te laisse la parole pour ta review mystère.
T'as hâte de savoir ce que c'est. Donc, on va partir du côté de chez Boom Comics.
C'est Tic-Tac.
Exactement, Chip and Dale numéro 2. Au scénario, Yann Brill, au dessin, Lionel Castellani. Alors déjà, on commence... Alors, moi j'avais lu le premier numéro, que j'avais trouvé super sympa. À la base, c'était pas du tout ce que j'avais prévu de faire, mais j'ai pas reçu Thanos à temps. Je voulais parler de la conclusion de Thanos Impérative, mais je l'ai pas reçu à temps, donc voilà. Et donc j'ai fait ça, parce que j'avais lu le premier épisode, j'avais adoré, et je me suis dit, bah je vais faire ça à la place. Et ça commence, alors pour ceux, les vieux nostalgiques, les gens assez âgés maintenant, en tout cas pas les gens de 15 ans, ceux qui auraient joué au jeu Tic et Tac sur NES,
ah oui.
La première scène d'intro, on a, donc ça va être Tac, Dale, qui est dans une rue avec une pomme au-dessus, qui balance des caisses sur des chiens mécaniques. Alors, quiconque a joué au jeu vidéo va se rappeler du premier niveau, obligatoirement.
D'accord.
C'est vraiment, on a l'impression d'être dans le jeu vidéo, quoi.
C'est un petit peu comme si t'avais un épisode des Tortues Ninja avec la tortue qui allait dans un égout et tu voyais des mangeurs de rats qui l'attaquaient.
Exactement.
Et un rouleau compresseur qui passe dans la rue pour l'écraser, enfin voilà.
Exactement, c'est ça. Ouais. Donc, on vient là-dessus, c'est un petit flashback où Dale parle avec, comment elle s'appelle déjà, Foxglove. J'ai pas cherché le nom en français, je ne sais plus du tout.
Alors moi je me rappelle plus, hein,
c'est une chauve-souris.
Putain, en fait. De Disney Club. Ah oui, d'accord.
Okay. C'est une chauve-souris, mais je me rappelle plus de son nom français. Donc en tout cas son nom anglais c'est Foxglove. Puis ensuite on revient à la scène où on était à la fin de l'épisode précédent, pardon. Donc les rangers du risque qui sont face aux pirates.
Ouais.
Pirates, hein. C'est la bonne petite blague, qui étaient des anciens alliés, mais qui sont toujours contrôlés par ce fameux signal de détresse animale, qui permet de contrôler les espèces animales et de les faire se révolter face aux problèmes que peuvent poser les humains, la déforestation, tout ce genre de choses, l'urbanisation, etc.
D'accord, donc mine de rien, il y a quand même tout un message.
Voilà, exactement. Ils vont donc aussi au Brésil chercher la deuxième partie de la clé qui va leur permettre d'arrêter cette machine. La machine avait été conçue. Je vais essayer de résumer très rapidement le premier épisode. Ils apprennent qu'il y a ce rayon qui contrôle en tout cas les animaux sauvages. On apprend que cette machine a été construite par le père de Gadget. Gadget qui fait partie des rangers du risque. Hein,
qui n'est pas l'inspecteur. Oui, oui.
La petite souris, oh là là, c'était très nul ça.
C'est la
petite souris qui est avec eux, la fille, celle qui invente toutes les machines qu'ils utilisent.
Ah oui.
Et donc c'était son père qui a créé cette machine. En collaboration avec Monterey Jack, le gros aventurier qui est toujours avec eux, le gros moustachu là.
Celui qui fait fromage.
Exactement, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça.
Avec ses moustaches qui tournicotent.
En plus, bon, j'ai dit, voilà, le graphisme est vraiment comme celui du dessin animé. Enfin, c'est une vieille replongée en enfance, c'est assez énorme. Donc, ils partent au Brésil chercher cette seconde clé. Ils se retrouvent dans une caverne avec plein de chauves-souris qui attaquent les humains, qui coupent la forêt amazonienne.
Comme Pedro, en fait. Pedro va au Brésil pour danser la samba. Il va devenir.
Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Ouais, exactement.
C'est pour rappeler les vieilles chansons qu'on t'apprenait aussi quand t'étais petit. Voilà.
Et il tombe en fait dans cette caverne sur le père de Foxglove, justement la chauve-souris avec lequel Tac discutait au début de l'épisode.
Oui.
Et il arrive quelque chose. Les chauves-souris sont de nouveau contrôlées. Elles réattaquent les humains et certains ne s'en sortent pas. Malheureusement, c'est super bien écrit. C'est super mignon. Franchement, c'est une véritable replongée en enfance. Mais ce qu'il y a de bien aussi, c'est que si vous avez des enfants et que vous lisez avec eux, il y a tout un tas de débats qui sont possibles avec les enfants. Et non seulement, enfin, c'est bien pour les adultes, ça fait réfléchir, mais ça peut aussi aider à réfléchir les enfants. Par exemple, il y a un moment, ils ont un petit débat entre Tic et justement Monterey Jack, qui lui dit finalement, ce signal de détresse animale, c'est pas si mal, quoi. Ça permet aux animaux de se rebeller contre les humains qui détruisent tout, qui saccagent tout, qui nous empêchent de vivre. Et Tic est totalement contre. Enfin, c'est du contrôle mental, donc ça peut pas être bien. Et voilà, il y a tout un tas de débats comme ça qu'on peut faire avec les gamins ensuite. Voilà, c'est un comics qui est mignon, mais qui fait aussi réfléchir, en tout cas, qui fait réfléchir les enfants. C'est vraiment une bonne chose. Boom Comics assure énormément tout ce qui est Walt Disney et je leur souhaite de continuer très 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 longtemps. Pour moi, c'est véritablement un bail, c'est vraiment super sympa. Et pour quiconque a encore un petit peu une âme d'enfant ou se rappelle les épisodes de Tic et Tac, voilà, c'est à pas rater.
D'accord. Donc, un bail.
Oui, un bail.
Un bail. Et d'ailleurs, on pensait que cette semaine était un petit peu pauvre en niveau comics, mais finalement, on a lu que des très bonnes choses.
Ouais.
Et je continue, donc, dans le très très bon, avec Avengers The Children's Crusade, voilà, je vais essayer de bien le dire, numéro 4. C'est pour moi peut-être l'une des meilleures séries Avengers du moment, avec Avengers Academy. Au scénario, on retrouve Alan Enberg, et au dessin, de Jim Chung, hein, quand même. Donc, pour resituer un petit peu l'action, et pour te dire à quel point c'est pas mal du tout. Déjà, au fait, les Young Avengers étaient traqués, parce que Wiccan a un peu pété les plombs, à la manière de Scarlet Witch, et les Avengers, donc Captain America, Iron Man, Spider-Man, etc., partent à leur poursuite pour récupérer Wiccan, et bah peut-être devoir prendre des décisions un petit peu extrêmes vis-à-vis de lui, pour éviter une nouvelle affaire Scarlet Witch. De leur côté, les Young Avengers, eux, sont partis à la recherche de Scarlet Witch, puisque c'est la mère de Wiccan et de Speed.
Mm-hmm.
Voilà. Et Scarlet Witch, eh bien figure-toi qu'elle est où ? Ils la retrouvent chez Docteur Doom, puisque Docteur Doom prévoit d'épouser Scarlet Witch.
Oh la vache.
Voilà.
Alors là, c'est violent.
Là, c'est énorme. Et j'ai trouvé ça génial, déjà, comme idée. Parce que, au fait, si tu te souviens bien, Docteur Doom, déjà dans ses origines, il avait eu comme petite amie une bohémienne qui avait des pouvoirs magiques. C'est d'ailleurs avec elle qu'il avait appris toute sa magie. Et donc, il retrouve vraiment, l'homologue en Scarlet Witch. Et je trouve l'idée... l'idée, au fait, est toute bête, hein, en fait.
Mais... Il partage des racines de l'Europe de l'Est, quoi. Enfin,
exactement.
Voilà.
Exactement. L'idée est toute bête. Ça n'avait jamais été fait.
C'est pas si bête que ça.
Et quand, mais non, en fait...
Fallait la trouver, l'idée, quand même.
Oui, oui. Et c'est génial. Et alors, donc, arrive Wiccan, qui veut empêcher le mariage, mais Docteur Doom, au fait, lui jette un sort, et lui dit que, au fait, il lui refilera ses pouvoirs s'il accepte de se joindre à lui, de vivre avec sa mère en Latveri, de devenir un petit peu son protégé, et lui promet un avenir radieux, etc. Scarlet Witch a tout oublié de son passé. Elle est éprise de Doom. Doom, c'est un peu son sauveur, tu vois. Et donc, elle est tout à fait partante pour l'épouser. De leur côté, les Young Avengers essayent de récupérer Wiccan, donc dans le château de Fatalis. Arrivent les Avengers, qui étaient à leur trousse. Et donc là, c'est la grosse baston. Tout le monde essaye de rentrer chez Docteur Doom pour empêcher ce mariage. Et arrive en plus Wolverine, qui lui a bien l'intention tout simplement d'exterminer, au fait, de tuer Wanda, parce qu'il estime qu'elle est une menace trop importante et qu'il peut pas la laisser vivre. Donc évidemment.
Et Docteur Doom, non. Il veut pas le dézinguer au passage.
On va voir. Parce que justement.
Sinon, Wanda est une menace, mais enfin Doom quand même, quoi. Je sais pas, mais.
Oui, non mais.
Quitte à autant faire coup double.
Ouais, non mais enfin pour le moment, ils sont pas arrivés jusqu'à Doom encore. Mais en tout cas. C'est excellent et c'est bourré d'action. J'ai hâte de lire la suite. Il y a le retour aussi d'un personnage qui a marqué les Young Avengers. Il se passe plein de choses. Pour moi, les Young Avengers, c'était vraiment excellent, le premier run de 12 épisodes. Je te conseille vraiment de le lire si tu l'as
jamais. Ça fait beaucoup de fois que tu m'en parles et c'est vrai que j'ai toujours pas lu.
Oui.
Par manque de temps, principalement. C'est sur la liste. Pour ceux qui ont écouté le deuxième podcast spécial, ils sauront de quoi on parle. La fameuse liste.
Ouais. Et là, en tout cas, The Children's Crusade, c'est un petit peu le deuxième volume, quoi, des Young Avengers par l'équipe originale. Et c'est aussi bon. C'est vraiment extra, quoi. Franchement, très très bonne série Vengeurs.
J'imagine que tu dois regretter que ce soit qu'une mini-série en neuf.
Bah ouais, en même temps, bon, ils ont un peu de retard, faut dire, hein, parce que c'est le quatrième, je crois, c'est le quatrième, j'en suis sûr, mais je crois qu'ils ont un petit peu de retard, parce que le premier, si je me souviens bien, on en a parlé cet été, quand même.
Mais je crois que ça a commencé, pas au tout début d'Heroic Age, mais 2 mois après, quoi. Donc, ouais, effectivement, ils ont dû prendre du retard.
Ouais, ou bien alors, ça ne sort que tous les 2 mois.
Ah, peut-être.
Mais dans ce cas-là, ça ferait non, je pense pas, parce que ça ferait 8 mois dans ce cas-là. Donc je ne sais pas. Bon, ils ont sans doute un petit peu de retard. En tout cas, la série est excellente.
Ah, 8 mois, c'est pas loin. Hein. Je crois que c'est pas loin. Il faudrait vérifier les dates.
Oui, je sais plus. Je sais plus. En tout cas, ça remonte à loin quand même, le premier numéro. Ça me semble.
Ouais, c'est vrai que je pensais qu'ils étaient plus avancés que ça.
Ouais. Donc en tout cas, c'est excellent. Lisez-la. Voilà. Pour moi, c'est l'une des deux meilleures. Et lisez Avengers Academy aussi. Gros coup de cœur sur ces deux séries.
Bien, bon bah voilà, donc un bail.
Ah oui, absolu. Must buy aussi comme Superboy. Vraiment, non, de très bonnes lectures cette semaine.
C'est parfait, c'est tout ce qu'on demande. Continuez comme ça. Donnez-nous plein de plaisir. Et de lecture, de lecture. je savais que
Oui,
t'allais penser à autre chose.
mais non, mais la
Non,
manière
mais
dont
c'est
tu
vrai
le
que
dis avec ta voix de
franchement.
pervers, ça fait bizarre, quoi.
Tout de suite. Non, mais c'est vrai que c'est quand même super agréable de pas dire n'achetez pas ça, c'est une merde, quoi. Voilà, donc ouais, non, c'est bien. Et puis on a des bonnes histoires. Non. Je pense que malgré tout, même si le comics est en crise, qu'il y a beaucoup moins de ventes, etc., on arrive encore aujourd'hui à avoir de très bonnes histoires et de prendre beaucoup de plaisir. Donc voilà, malgré tout, il y a quand même un effort de créativité. Certes, c'est pas sur toutes les séries, sinon il y aurait plus de ventes et ça se saurait, mais il y a quand même encore des petites perles qui sont pas forcément les plus gros titres. Donc des fois, il faut suffit de chercher un petit peu ailleurs. C'était le message du jour.
Voilà, c'était la pensée du jour.
Bien, et ben comme toujours, vous pouvez nous laisser vos réactions par les commentaires, nous envoyer un mail à l'adresse podcast@comiccity ou nous laisser un petit message vocal que l'on diffusera dans l'émission au 09 70 440 497. Et c'est tout pour cette semaine. On se quitte avec le traditionnel mot de la fin de Benny,
Oui,
le premier
ce sera
mot de la
plus
fin de 2011,
ce sera
puisque
plus un
la
slogan,
dernière
un slogan.
fois.
Alors, on s'est quitté avec un singe, Murphy.
Ouais.
Donc là, on va continuer dans la série des gorilles avec ce slogan bien connu que je vais peut-être dire en perfoura, puisque c'est pour les vieux, hein, un petit peu comme nous. Je pense que ceux qui ont connu ça ont à peu près l'âge du perfoura. C'est, allez, allez, hop, on y va, en route vers l'aventure, on n'y résiste pas, avec
Ah, c'est nul. On aurait dit un vieux chanteur de métal qui était à faune. Que de souvenirs. Que de
Oui,
souvenirs.
et d'ailleurs, est-ce que ça existe toujours le manga? Je ne crois pas.
Le manga existe toujours, mais ce n'est plus Richard Gottener qui préside les campagnes publicitaires, c'est maintenant. Ah non, c'était non, ça c'est Oasis, pardon, j'allais dire c'est François
Mais
Perron,
oui.
mais non, c'est sur Oasis. Non mais ah non, manga n'existe peut-être plus en fait.
Manga, je n'en vois plus.
Eh bien oui, je crois que je confonds Banga et Oasis.
Manga qui donc était le partenaire officiel de cette émission En route vers l'aventure, ou En route pour l'aventure, je ne sais plus comment les deux,
Ouais.
avec une sorte de Fort Boyard pour enfants, on va dire.
Oui, c'était ça.
Et
Ouais,
avec
je
des
vois.
singes.
Ouais.
Voilà. C'est pour ça que je parlais toujours des singes, des gorilles. Enfin,
Olivier Mine, si tu nous écoutes, on pense à toi.
mais c'était pas Olivier Mine, justement. Olivier Mine a fait le truc avec le petit robot là par la suite. Mais
Ah
là
oui.
c'était quelqu'un d'autre, c'était sur la 5, il me semble. Donc ce n'était pas Olivier
Et
Mine.
c'était pas sponsorisé par Banga, ça, à l'époque, aussi?
Ah ça par contre je sais pas.
Qui avait la main mise, je crois, sur les émissions pour enfants, comme ça.
Eh bien, faites-le nous savoir si vous le savez, si vous êtes de notre génération ou de la génération supérieure, c'est-à-dire celle du perfoira, si vous vous souvenez de
Non, c'est
ça.
qu'il n'y a pas du tout de gap entre les deux.
Non, non, pas du tout.
Donc pour les gens qui ont la trentaine ou les gens qui ont 150 ans, l'un ou l'autre.
Choisissez, voilà. Donc voilà, donc bah ça clôturera notre Comic City. Notre Comics Wiki.
Ouais. On se retrouve la semaine prochaine, comme toujours. Et d'ici là, bah, beaucoup de comics, beaucoup d'aventures et beaucoup de mangas, si vous en trouvez.
Faites-le nous savoir aussi. Allez, ciao à tous.
Salut.